Je ne suis pas un paysan, moi. Je suis un gestionnaire. Et pour te la gestionner, je te l'ai gestionné, la nature, par chez moi.
CO2, mon amour.
Pour les voir, mes 400 hectares. Comme c'est propre. C'est nickel. Il n'y a plus rien. Avant, il y avait les sauterelles, les coccinelles, les escargottes. Ces petites saloperies, là, aujourd'hui, il n'y a plus rien.
Avec Denis Chessou.
Il n'y a plus une herbe, plus un animal, rien. Avec le Xerox 3000. Ah, ça, ça te nettoie tout.
Sur France Inter.
Eh oui, nous, on essaye de faire le contraire, de faire repousser de la biodiversité et de la nature. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, ce magazine de nature et d'environnement qui tente de rapprocher les hommes en nous rapprochant aussi de la nature, avec Alicia Berger et Nicolas Delmas aujourd'hui à la technique et assisté de Camille Blanès. C'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Alors on va commencer par une petite humeur qui va obligatoirement fâcher un petit peu. Parce que la chasse, vous savez, c'est français, c'est historique, c'est viril. Et nous chasseurs, ben nous sommes les premiers protecteurs de la nature. On a le label du ministère de l'Environnement et Laurent Wauquiez nous l'a répété. Il nous aime, lui, en Auvergne-Rhône-Alpes, donc très bien. Alors parfois évidemment, faut s'être pris un peu de plein fouet de la violence des chasseurs de la Somme ou de l'Ardèche au col de l'Escrinet pour comprendre qu'il n'est pas besoin de gratter longtemps le vernis des convenances sociales et du dialogue constructif pour saisir qu'Homo sapiens a du mal à s'extraire du simple et fruste erectus que nous sommes tous d'ailleurs plus ou moins. Mais on va voir quand même le côté positif. Parce qu'il y a une alliance objective entre naturalistes et chasseurs, garder des milieux naturels, de la biodiversité en bon état. Alors les uns ont des jumelles, les autres ont un fusil à lunettes. Moi j'ai des copains qui sont aussi chasseurs, en Côte d'Armor, dans le Tarn, dans la Nièvre, et qui œuvrent ensemble avec des naturalistes dans ce but et font de la pédagogie auprès de leurs adhérents. Alors de là à évangéliser les enfants dans les écoles avec la bénédiction de l'éducation nationale, c'est une autre histoire. Alors il ne s'agit pas forcément d'être totalement radical sur le sujet, mais l'actualité est récente et, comment on va dire, un petit peu chaude. Saison 2016-2017, 18 morts contre 10 la saison précédente, donc 80% de hausse, c'est pas mal, et 143 accidents. Chouette, la saison 2007, elle est bien partie pour battre des records. Jugez plutôt, 2 septembre en Corse, un jeune de 17 ans est mort d'un tir en pleine tête au cours d'une partie de chasse familiale. Dimanche 17 septembre en Vendée, c'est le grand-père qui tire dans la tête de son petit-fils de 13 ans qui doit ressembler à un chevreuil. Le même jour, un chasseur et son fils de 11 ans sont blessés par la même balle au cours d'une battue au sanglier dans le Var. Plus tard dans la journée, c'est un accompagnant dans les Hautes-Alpes, n'en jetez plus. Plus de la moitié des accidents ont lieu le dimanche. Alors, la logique voudrait peut-être une trêve. Gros mot. Le dimanche pour que les promeneurs soient tranquilles. Mais là, on peut toujours rêver et s'accrocher parce que le poids politique est quand même très fort. Vous n'irez plus au bois, les lauriers sont coupés. Les chasseurs que voilà, vous les ont confisqués. N'entrez pas sous les branches, ni samedi ni dimanche. Sautez, dansez, ne jouez pas au sanglier. Bon. Et puis alors, regardons quand même le monde autour de nous. Quoi, 10-20 morts par an, c'est une rigolade. La violence, elle est partout. Et qu'est-ce que c'est face à ce grand fleuve rouge de l'histoire? Alors justement, il existe parmi les chasseurs donc quelques saumons courageux qui remontent le courant. Et ceux-là doivent être soutenus parce qu'ils s'allient donc à d'autres pour essayer d'inverser les choses et ne trouvent pas tabou l'instauration d'un périmètre de sécurité autour des habitations, mesure qui n'existe plus quand même depuis 1982 sur la moitié du territoire. Il ne trouve pas tabou l'établissement d'une réglementation nationale pour encadrer la sécurité liée à la chasse. Il n'existe plus aucun texte législatif ou réglementaire en application en France. Il ne trouve pas tabou un contrôle annuel de l'état de santé et de la vue pour obtenir le renouvellement du permis de chasser. Il ne trouve pas tabou non plus la mise en place d'un seuil légal de concentration d'alcool dans le sang et dans l'air expiré, si vous voyez donc ce que je veux dire. Alors aussi, pour être plus responsable et tenter, alors là, accrochez-vous, de grappiller quelques points au bac. Ouais, au baccalauréat. Depuis cette année, il existe même une option chasse. Alors c'est le fait d'un lycée en France, il n'y en a qu'un, c'est l'Institut Agricole Saint-Joseph à Limoux dans l'Aude. Alors a priori, si vous voulez, Saint-Joseph, il était plutôt meilleur protecteur dans la boîte à gants du 4x4 bio que dans la cartouchière. Enfin, bon, hein, on peut se recycler. Bref, l'évaluation en contrôle continu est sur 2 ans, entre théorie et pratique. Et cette matière permet de, quand même, alors, d'abord, ça permet de rajeunir le cheptel des chasseurs, parce que c'est pour les époques des gamins, hein, bon. Et peut-être formera-t-elle plus tard des chasseurs autrement responsables. Et ainsi, on pourra toujours dire à nos jeunes, passe ton bac d'abord, ça te mettra du plomb dans la cervelle. Et on va rester un petit peu dans le sujet avant de passer à nos clics de conscience avec Béatrice Ibéné, parce que là aussi c'est l'actualité. Béatrice Ibéné est vétérinaire, présidente de l'association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles, évidemment qui a été beaucoup beaucoup touchée, on le sait. Irma, Maria qui ont ravagé quand même flore, faune de certaines îles de Guadeloupe et alentour. Et malheureusement, l'outil vedette en ce moment, c'est la tronçonneuse, parce que bananeraies sont pliées et aussi des bouts d'autres forêts. Alors bonjour Béatrice Ibéné, dites-nous s'il vous plaît, donc faites-nous un petit point de la situation.
Bonjour Denis. Alors en Guadeloupe, on observe que tous les types forestiers ont été touchés, mais particulièrement la forêt marécageuse, qui est cette très belle forêt inondée derrière mangrove, et également la forêt tropicale humide, donc du massif forestier de la Basse-Terre, particulièrement au sud, et les très belles forêts littorales des îles des Saintes. Et donc on a une remontée importante de mortalité directe, hein, qu'il y a eu avec les vents, les pluies et puis les vagues qui submergent les côtes. Donc on a eu des remontées de mortalité sur des petits oiseaux, des grives, des colibris énormément.
Mais aussi les plus importants.
Mais aussi des très gros oiseaux comme des pélicans bruns ou des frégates. Voilà. Hein. Donc voilà, malheureusement, toutes les espèces sont touchées. Des destructions également de nids, des lessivages de ponts d'iguanes. Mais les effets les plus importants, hein, sont les effets indirects, hein, de ces cyclones, et avec la disparition des sources alimentaires, parce que là, vous avez brutalement des animaux qui manquent de nourriture. Et c'est vrai que les espèces principalement touchées, qu'il s'agisse des oiseaux ou des colibris, sont les espèces nectarivores. Donc on a beaucoup beaucoup de colibris en difficulté, mais les espèces également frugivores et granivores.
Ce qui veut dire qu'ils sont affaiblis et qu'en plus ils sont moins farouches. Et pourtant, la chasse pendant un certain temps a donc continué. Ça n'a pas exactement aidé les oiseaux.
Du tout, hein. C'est vrai que la défoliation et la fatigue de ces animaux qui effectivement sont complètement affamés et donc qui les rendent beaucoup plus proches de l'homme en fait, a entraîné effectivement une pression de chasse importante, puisque malheureusement il n'y a pas eu de suspension directe de la chasse, et on a assisté un peu impuissant pendant 10 jours à de véritables massacres sur des oiseaux, et le terme vient aussi de chasseurs eux-mêmes qui étaient tout à fait ahuris, que de d'autres chasseurs donc qui chassaient sur des animaux qui se nourrissaient au sol, qui étaient plus du tout méfiants, affaiblis, affamés. D'autant que nous sommes quand même assez proches de la Dominique, dont toutes les forêts ont été littéralement dévastées, brûlées par le sel. Mmh. Vous savez, la Dominique, c'est cette très belle île nature, hein, qui est très sauvage
c'est
encore.
C'est extraordinaire.
Et il y avait beaucoup d'oiseaux réfugiés climatiques, notamment ce qu'on appelle ici des ramiers, hein, qui sont en fait des très beaux pigeons à cou rouge ou à tête blanche, qui sont venus donc de la Dominique se réfugier en Guadeloupe. Et qui ont malheureusement eu affaire à un comité d'accueil par pas mal de chasseurs, qui est absolument indigne. Oui. Et le préfet donc de la Guadeloupe a attendu 10 jours après le passage de ces ouragans pour enfin suspendre la chasse. Mais c'est une suspension de 9 jours qui, bien évidemment, est complètement insuffisante pour que les populations aient des chances de se restaurer.
C'est-à-dire qu'en fait, ça va être jusqu'au 7 octobre, parce que ça ne peut pas excéder 10 jours. Et pour se refaire une santé, voilà. Alors, vous l'avez très bien dit, il y a quand même eu des chasseurs qui étaient horrifiés par cela, donc qui ont bougé. Si on continue comme ça.
Mais on espère que cette suspension sera suivie des faits et sera respectée, qu'elle sera renouvelée. Il y a quand même toujours moyen, évidemment, même au niveau ministériel, de prendre des moratoires en urgence. On est vraiment dans une situation absolument dramatique pour pas mal d'espèces d'oiseaux, et notamment pour des oiseaux qui viennent aussi de la Dominique. Hein. Et la richesse des îles, c'est aussi ce côté d'archipel qui fait qu'en fait, on a des îles refuges, les îles qui sont moins cyclonées, moins dévastées, servent de refuge pour des populations d'oiseaux. Et donc, c'est quand même la responsabilité de l'État français de préserver ce patrimoine naturel antillais.
Béatrice Ibéné, on en a peu parlé, il y a aussi cette petite île de Barbuda.
Tout à fait, c'est une toute petite île, une île atoll, hein, surélevée, qui fait à peine 170 km², qui a une très faible densité, puisqu'il n'y avait que 1600 habitants qui ont tous été évacués entre les deux cyclones. L'île de Barbuda abritait la plus grande colonie nicheuse de la Grande Caraïbe, de frégates superbes, puisqu'elle abritait 2500 couples. Il faut savoir que les frégates, ces superbes oiseaux aérien magnifique, en fait, ne niche plus aux Antilles françaises depuis 1644, hein, depuis le début de la colonisation européenne. Et en fait, elle niche, toutes les frégates qu'on pouvait observer en Guadeloupe niche en fait à Barbuda. Et cette île a été également littéralement dévastée. L'œil est passé en plein milieu de Barbuda. Donc les ornithologues caribéens sont très inquiets pour le devenir de cette très grande colonie nicheuse de reproduction, de frégates magnifiques, mais également pour la paruline de Barbuda, qui est une toute petite paruline endémique de cette petite île, qui a été revue depuis, mais son avenir est incertain, bien évidemment. Voilà, parce qu'il faut savoir que les cyclones sont effectivement des éléments structurants et ont sélectionné des espèces qui sont adaptées à cette récurrence de phénomènes climatiques, mais en dehors de tous ces facteurs anthropiques, d'espèces exotiques envahissantes, de destruction des habitats, d'urbanisation du littoral qu'on peut leur infliger. Et donc, les cyclones constituent quand même une menace sérieuse pour les espèces endémiques des îles.
Il reste plus qu'à donc saluer tous nos amis à la fois de la Guadeloupe avec donc 6 heures de moins et aussi donc bien sûr des Antilles en général. Merci à vous Béatrice Ibéné et puis à très très bientôt.
Merci Denis, à très bientôt.
Voilà, donc une femme engagée. Avant de retrouver donc Jonathan Attias, Alexandre Lambroso et Serge Bahuchet avec nos clics de conscience, vous allez voir, c'est passionnant. Allez, un peu de musique, on aime ça sur France Inter.
CO2 mon amour sur France Inter.
You sang your swan song to the dogs. They made mincemeat of the dreams you hung your hopes on. If you cut it out, well, your sins cost. Well, mommy talks to your conscience, working like a fool for love.
Eh ben, c'est de la pop rock, ça, américaine, où je ne m'y connais pas. Donc, c'était donc Beck, hein, rien à voir avec la prise. Et donc, c'est Miguel Pérez qui a choisi donc ce premier disque, c'était Dear Life.
Ce qu'on vous propose, c'est de participer et d'être avec nous, les rédacteurs, justement, de cette loi. On va vous inviter en décembre à venir sur cette interface. Donc, les 60 000 signataires et peut-être davantage, peut-être vous, faire cette première, tous ensemble, on coécrit tous ensemble cette loi.
Une pétition, nous sommes en 2015, Yes We Grain. Et que deviennent donc nos clics, vous savez, les petits clics que l'on fait lorsque l'on signe des pétitions, une fois la pétition donc signée. Et ben, c'est ce que racontent Jonathan Attias et Alexandre Lambroso dans Des clics de conscience. Alors c'est un film qui est tonique, qui est très intéressant, qui est positif. Ça est une parole de John comme on l'aime nous ici dans cette émission. Bonjour Jonathan.
Bonjour Denis.
Et bonjour aussi à vous Alexandre.
Bonjour Denis.
Alors, Serge Bahuchet est avec nous aussi. Il va vous écouter et puis il va aussi renchérir avec sûrement les semences. Bonjour à vous Serge Bahuchet.
Bonjour.
Vous avez écrit Les jardiniers de la nature aux éditions Odile Jacob. Là je reviens sur ces fameux clics de conscience. Donc c'est un documentaire vraiment très très citoyen qui remet bien la place de la démocratie et aussi donc les limites qui va sortir donc le 4 octobre. Donc là c'est une petite avant-première. Et alors c'est une histoire en fait qui commence avec le Mexique. Vous avez rencontré donc un paysan mexicain, Don José Carmen, un gars. Alors si vous connaissez Jack et le haricot magique, il était cultivateur en fait de légumes géants au rendement extraordinaire. Et alors lui il n'était pas entre les pattes de semencier.
Exactement. En fait, toute l'aventure entre nous avec Alexandre, justement, pour comme une idée, ça a été cet homme-là, Don José Carmen. C'est un paysan. Il y a un film qui lui a été consacré dans les années 80 qui s'appelle L'homme qui parle avec les plantes. Et en fait, on s'est aperçu que ce paysan-là arrivait à concurrencer toute une industrie en utilisant des méthodes d'agriculture traditionnelles. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'il arrivait à avoir des rendements exceptionnels et des légumes géants, comme vous le dites, sans utiliser aucun fongicide, pesticide, aucun intrant finalement. Et c'est ce qu'on a trouvé assez incroyable. Et nous, on était très sensibles déjà à ce moment-là aux thématiques des semences à travers le combat de Cocopelli. Et donc l'idée avait été à ce moment-là de se dire on va venir avec des semences paysannes, voir ce paysan-là, et on va prouver à toute l'industrie qu'elle se trompe avec leurs semences traficotées et les produits chimiques qu'ils mettent dans les champs. Et puis on va recréer un nouveau modèle.
Alors retour en France, et là vous décidez de médiatiser, on va dire, l'absurdité de la réglementation européenne, bon, pas évidemment pour les semenciers, donc de ce marché des semences. Et là, c'est là que vous commencez. Alors, si vous avez fait aussi une série « Jardinier, levez-vous », là aussi, Alexandre.
Oui, cette série, elle mettait le doigt en fait sur le problème actuel en France, c'est que les jardiniers peuvent s'échanger les semences traditionnelles, mais pas les agriculteurs. Et donc, notre petite chronique « Jardinier, levez-vous » en 7 épisodes, on va à la rencontre des associations semencières, Cocopelli, des collectionneurs de biodiversité, voilà, il faut savoir qu'on est 13 millions de jardiniers en France et que certains ont compris leur rôle de préservateur, en fait, pour préserver la biodiversité. Et donc, c'est à partir de là qu'on s'est dit, ça ne suffit pas, il faut qu'on lance une pétition et qu'on change les règles du jeu.
Alors, qu'est-ce que vous avez mis dans la pétition? Donc, c'était quoi le libellé, on va dire?
Alors, la pétition s'appelle Yes We Grain.
Yes We Grain, oui.
Voilà.
Oui, j'ai dit oui, Yes We Grain tout à l'heure, c'est ça?
Oui, oui, mais
Yes We Grain, allez.
L'esprit est le même.
Oui.
Et dans cette pétition, on demande à ce que les agriculteurs puissent s'échanger et reproduire librement toutes les semences du domaine public. Mm-hmm. Donc, on les met avec cette intention-là parce qu'on s'est bien rendu, compte qu'il y avait beaucoup de jardiniers en France, mais que si on voulait préserver un peu la profession d'agriculteur et le métier de paysan, eh ben, il fallait que ça se professionnalise. Donc on l'a lancé et on a rapidement reçu...
Ça marchait très fort, en 2 semaines quoi, je sais pas combien... Il y a eu
20 000 signatures en 2 semaines, ouais.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, comme vous, comme tout le monde, on a tous signé des dizaines de pétitions et en se demandant à quoi elles peuvent bien servir. Donc on s'est dit, là on a notre pétition, un sujet qui nous passionne, on va essayer non seulement de la porter jusqu'au bout, mais en fait on va aussi regarder ce qui se passe ailleurs.
Et lorsque l'on a par exemple Joël Labbé comme sénateur du Morbihan, qui évidemment est sensibilisé donc à cela, eh bien il va vous dire dans ce film que c'est nécessaire d'avoir aussi des gens comme vous.
Vous pensez que finalement le changement passera par des mouvements citoyens ?
Oui, pour une première question abrupte, ça me va bien pour bien donner la réponse. Les mouvements citoyens sont absolument nécessaires pour faire bouger le monde politique et l'establishment, on en a besoin. Nous les élus très minoritaires, on en est tout à fait conscients, donc on compte beaucoup, beaucoup sur la mobilisation citoyenne et sur la reconnexion entre les politiques, le politique et la société civile. Parce que moi, je défends la politique parce que j'y suis dans la politique. Et le tous pourri, ça m'énerve, parce qu'on n'est pas tous pourris. Par contre, on a besoin de gens mobilisés, motivés, qui s'intéressent à ce que l'on fait et qui demandent à être associés à cela.
Tenez, d'ailleurs, j'ai le papier avec les 32 000.
Oui.
Donc voilà, on l'a lancé il y a 3 semaines. Maintenant, on en a 32 000 signataires, mais on ne sait pas quoi faire finalement de ces signatures-là. À qui on va pouvoir les donner pour qu'elles puissent être portées à l'Assemblée ?
Les adresser au ministre.
Alors, que des semences soient libres et reproductibles et accessibles à tous, je me tourne vers vous, Serge Bahuchet, parce que là, je rappelais que vous êtes ethno-écologue, vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, vous avez créé le département Homme, Nature et Société, et j'ai entre les mains ce très bel ouvrage qui s'appelle Les Jardiniers de la Nature. C'est presque un titre à la Jean-Marie Pelt, hein, ça, donc voilà, aux éditions Odile Jacob. Et alors, ça, pour vous, ça paraît complètement une aberration, parce qu'en fait, la semence qui a toujours été échangée est à l'origine, évidemment, de n'importe quelle civilisation et d'humanité.
C'est à l'origine de l'humanité, en effet. Dès l'instant où les hommes ont domestiqué les plantes dans quelques endroits du monde très restreints, ces plantes et ces animaux se sont diffusés de proche en proche jusqu'au monde que nous connaissons actuellement. Donc, les plantes se sont diffusées, elles ont été diversifiées, le nombre des variétés a été accru par les populations d'agriculteurs, de jardiniers et autres au cours des 5000 années qui nous précèdent.
Et donc vous dites bien que l'histoire de l'humanité est fondée sur la diffusion donc de ces plantes et non pas sur les frontières.
Elle est fondée sur la diffusion des plantes, des hommes qui vont avec. Et elle est aussi fondée sur la diversité. C'est-à-dire qu'on sait, en regardant toutes les communautés paysannes du monde actuel, encore aujourd'hui, que ce qui caractérise le jardin ou le champ d'un paysans d'Afrique, d'Asie, de France aussi, c'est d'avoir beaucoup d'espèces et beaucoup de variétés de ces espèces en mélange dans sa parcelle cultivée. Et les hommes, en quelque sorte, collectionnent la diversité.
Et alors, l'agriculture et l'élevage, ça vous le montrez bien, sont apparus simultanément dans des zones différentes. Hein. Vous dites une dizaine de zones qui sont indépendantes, parce qu'on a toujours en tête la Mésopotamie, donc le croissant fertile. Oui, bien sûr qu'il y a eu là des choses extrêmement importantes. Mais en fait, l'archéologie a ajouté d'autres lieux.
Oui, l'archéologie et la génétique aussi, qui a beaucoup apporté d'informations. Bon, pendant longtemps, l'idée qu'on avait, c'était que l'agriculture avait été inventée, en quelque sorte, avec le néolithique dans le croissant fertile, et que là, ça s'était diffusé dans le reste du monde. En fait, on se rend compte que c'est pas vrai, et qu'effectivement, et c'est ça qui est un petit peu miraculeux dans l'histoire de l'humanité, c'est que nos ancêtres, les hommes, ont reconnu quelques plantes ou quelques animaux, très peu, hein, en fait, et ils les ont choyés d'abord, ils les ont ramassés autour d'eux. On sait maintenant qu'il y a eu longtemps, je ne sais pas combien de temps, mais pendant lequel les hommes collectaient des plantes sauvages, du blé sauvage ou de l'avoine sauvage au Proche-Orient, du riz sauvage en Chine ou au nord de l'Inde, avant qu'ils le mettent en culture. Donc il y a une période d'apprivoisement, on pourrait dire, des plantes, avant qu'on les domestique et qu'on les transforme pour qu'elles deviennent autre chose que leurs ancêtres sauvages.
Mais alors vous avez commencé à l'évoquer, c'est-à-dire qu'on est frappé en fait du nombre assez limité de plantes et d'animaux domestiqués par les civilisations humaines. Et ça a été fixé, quoi. Il y a entre 11 000 ans et 5 000 ans.
Oui, à peu
avant
près.
Avant notre ère.
Et c'est ça qui me fascine aussi, c'est que finalement, on n'a pas rajouté d'espèces. On a rajouté de la diversité, mais on n'a pas rajouté de
nouvelles espèces. Les généticiens n'ont fait que diversifier en variété le stock qui a été légué par nos ancêtres.
Exactement.
C'est ce que vous dites.
Oui. Oui. Et ça, c'est assez, pour moi, c'est fascinant. Pour la compréhension de notre espèce, c'est assez extraordinaire.
Alors, ça doit être assez fascinant de voir aussi donc ces deux jeunes, parce que là, ils se battent en fait pour recréer de la biodiversité.
Exactement. Et il y a deux choses qui m'ont frappé dans ce que vous venez de dire. La première, c'est que votre aventure, elle a commencé au Mexique. J'étais au Mexique la semaine dernière, pendant le tremblement de terre, pour un colloque et une rencontre avec des agriculteurs dans un petit village à l'est de Mexico, en pleine région Nahuatl. Et ça s'est conclu par c'est un colloque qui était organisé par le CNRS, par une université mexicaine et par l'IRD. Et ça s'est conclu par une déclaration, qu'on appelait la déclaration de Quetzalan, qui va être diffusée dans la presse mexicaine, où ces paysans se préoccupe d'une manière très intime, très profonde, sur le danger que représente l'introduction des OGM au Mexique, qui est interdite normalement. Mmh. Mais on sait maintenant que, parce qu'il y a plein de prélèvements qui sont faits par des laboratoires, qu'il y a des pollutions, en fait, l'introduction de gènes modifiés dans des stocks de maïs sauvages, dans des stocks de maïs locaux, même dans des communautés rurales très éloignées. Tout ça par accident, en fait. Et ça commence à très réellement préoccuper les paysans, en plus du fait qu'il y a une grosse diffusion de variétés hybrides dont ils ne peuvent pas reproduire les semences. En fait, le fond du problème, il est là.
Oui, c'est ça.
Ils mettent en contradiction ce qu'ils appellent, eux, ces paysans-là, un projet de mort avec l'introduction de l'OGM, et ils vont prôner un projet de vie qui est exactement votre combat, qui est la liberté des paysans de diffuser leurs propres semences.
C'est pour ça que je voulais faire une hybridation amicale aujourd'hui, donc là en direct avec vous, dans ce voyage. Vous voyez, donc Alexandre Lambrouzeau, là on a entendu Joël Labbé, évidemment, qui est un homme qui est très sensibilisé à ces sujets-là, donc Europe Écologie Les Verts, et qui a toujours été très 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 en pointe là-dessus. Bon, mais on imagine bien que même au sein de notre démocratie représentative, c'est quand même, ça n'a pas été simple.
Alors ils sont minoritaires, Alexandre. C'est vrai que donc ces personnages comme le sénateur Joël Labbé qui veulent amener des questions minoritaires dans ces assemblées politiques, ils sont minoritaires. Et justement, nous c'est ça qui nous intéressait, c'est que moi je suis citadin. Donc en fait quand on parlait de la nature, on peut me faire avaler un peu n'importe quoi quand je ne le connaissais pas. Et en fait, c'est ces questions-là qui m'intéressaient. Le monde est tellement industrialisé que la majorité des personnes, nous n'avons pas de moyens de comprendre l'avenir de l'humanité, l'avenir de la biodiversité. Et donc, en fait, l'enjeu, lorsqu'on parle de biodiversité, un concept qui est vraiment compliqué parce que c'est dynamique, et qu'on rencontre, le monde politique et l'establishment qui a des principes assez statiques, on est dans une vraie confrontation, et c'était ça le grand enjeu, c'est d'obtenir une majorité. Et on l'a eu justement avec des gens de gauche, des gens de droite, un peu
complètement.
Partout.
Il a raconté la fin du film déjà.
Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est important de le dire. Hein. C'est vrai aussi. D'ailleurs, Ségolène Royal, quand elle était donc à l'Assemblée nationale aussi, l'a très bien pointé. Elle disait que ce truc-là est passé. On va arriver sur l'amendement principal, c'est qu'il soit passé. Ce que vous racontez, c'est l'histoire. C'est l'accouchement de cet amendement. Et alors, effectivement, c'est pas simple parce que là, on va écouter Cécile Kuckermann, qui est sénatrice PC de la Loire et qui parle bien des craintes qui sont derrière.
Il y a une crainte des élus, non pas qu'on prenne leur pouvoir, leur place, quoi, c'est pas ça la question, quoi. Il y en a, oui, mais je veux dire, l'enjeu est pas là. Je crois que pour la majorité, il y a cette peur de se dire, mais si on laisse trop de place à ces initiatives citoyennes, on va remettre en cause les élus et donc la démocratie. Que aujourd'hui, si on bouscule pas nos institutions, faut se le dire, et c'est pas être pessimiste, si on bouscule pas nos institutions, on ne permettra pas aux citoyens d'avoir le pouvoir. Or, quand les citoyens ont le pouvoir, c'est la démocratie.
Voilà, donc c'est ça aussi qui est derrière. Hein. C'est-à-dire que ce que vous parlez de cadre quand même qui certes, la Ve République a fait ses preuves en sortant, 58, faite pour un homme, etc. Mais là, on voit bien qu'il y a ça bloque hein, aux entournures. Mais oui.
Il y a des vrais verrous institutionnels auxquels on a été confrontés, nous, dans cette aventure, en fait. On en parlait tout à l'heure, on se demandait à quoi pouvait bien servir une pétition aujourd'hui. Et donc, ça a été notre première question. Et très vite, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de droit qui l'encadrait en France et qu'au niveau européen, il y en avait un, mais qui était complètement absurde. Ça s'appelle l'Initiative citoyenne européenne.
Alors, faut en parler. Allons-y, ça va.
Oui. En fait, l'Initiative citoyenne européenne, c'est né du traité de Lisbonne. Donc en 2009, et ce traité dit que si on arrive à réunir 1 million de signatures,
c'était Lisbonne qui a permis de passer par la fenêtre ce que la porte avait fermé, hein,
que le référendum n'avait pas voulu qu'il aboutisse. Et donc cette initiative citoyenne européenne dit que si on réunit 1 million de signatures de citoyens répartis dans 7 pays, on peut saisir la Commission européenne pour poser une question. Donc en fait, c'est une pétition qui aurait un cadre consultatif. Sauf qu'en fait, on s'est aperçu avec le TAFTA que en réalité, il faut demander l'autorisation avant d'émettre la pétition à la Commission européenne, et que quand cette pétition ne va pas dans le sens de la Commission, elle refuse en permanence.
Ah ben voilà, donc il faut demander en amont à la Commission européenne, que l'on sait très, très environnementaliste, elle est connue pour ça. sinon, ils peuvent dire non, vous ne créez pas de pétition.
Et c'est complètement absurde, parce que la pétition, à la base, c'est justement un contre-pouvoir, c'est un cri du cœur, et c'est enfin, si on doit demander l'autorisation d'émettre une pétition, elle perd tout son sens, en fait.
Alors, cri du cœur, mais étayé. C'est pas que des cris du cœur. Il n'y a pas que de l'émotion, il n'y a pas
non,
tout
bien
ça
sûr.
Dans votre, oui, dans
votre nous,
affaire.
Notre aventure, elle est très réfléchie.
Ah oui, oui.
Et bah, parce qu'il y a un constat qui est très simple, c'est que nous, les semences, c'est un sujet qui nous touche intimement avec Alex. Et ce qui se passe avec les semences, c'est que l'ONU disait qu'en un siècle, on avait perdu 75% de notre biodiversité cultivée. Je crois qu'en France, c'est Claude et Lydia Bourguignon qui disaient ça. Dans le catalogue du GNIS, donc c'est le catalogue officiel qui émet les semences industrielles. Depuis 1950, on a perdu 80% des légumes cultivés. Donc c'est énorme, c'est incroyable, et on devient un peu amnésique de notre patrimoine. Donc nous, c'était tout sauf un cri du cœur émotionnel. C'était surtout quelque chose de très réfléchi pour dire comment on peut se réapproprier nos semences, celles qui constituent notre histoire collective.
Et dans ce catalogue, il y a principalement maintenant des hybrides, de ce qu'on appelle des hybrides F1, donc c'est-à-dire des semences qui ont été obtenues par une technique d'autofécondation successive. Hein, donc c'est ça qui est derrière, Alexandre.
Oui, en fait, c'est ça qui, de manière, en fait, quand on découvre ça, donc la stérilité partielle de ces semences, on est choqué. Et donc c'est là où, en fait, face à des gens, des lobbies qui savent très très bien là où ils vont, bah, le citoyen en face, quand il découvre ça, bah, c'est sûr qu'il est très très en colère et il a souvent des réactions émotionnelles. Et donc c'est ça qui est très compliqué. C'est donc ces hybrides F1, effectivement, qui constituent la grande majorité du catalogue, sont stériles. Et donc, l'agriculteur est obligé de racheter chaque année ses semences à ses semenciers industriels. Donc, on est face à deux problèmes, à la fois une érosion de la biodiversité et une dépendance des agriculteurs face aux semenciers.
J'aurais pu vous emmener dans un petit jardin, je vous emmène dans une maison qui est pas mal non plus.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, l'éternité. Autour les guêpes et les nids des oiseaux, on allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur le curé. On se baignait tout nu, tout noir avec les petites à l'usine et au supermarché. Les arbres ont disparu, mais ça sent l'hydrogène sulfuré. L'essence, la guerre, la société. Pas si mal, et c'est normal, c'est le progrès.
Quelque chose qui me tracasse.
Et quoi?
L'eau. Un pied d'œillet, ça boit comme un homme. Pour arroser mes 50 plantes, il a fallu m'arracher la peau des mains sur la corde du puits.
CO2, mon amour.
Et si on achetait le champ et la source de Pic-Bouffigue là-haut?
Tu vois son père, comment le vieux? Il faisait des pleines charrettes de légumes.
Tu crois qu'il la vendrait, sa ferme?
Écoute, il n'en fait rien, il n'en fera plus jamais rien. Alors tu en fais voir les sous.
Sur France Inter.
Et alors, Galinette, donc, elle écoute, Galinette, l'émission, mais j'espère que vous allez bien, hein, en CO2, mon amour, vous l'avez compris, des clics de conscience qui va sortir, donc, le 4 octobre, Serge Bahuchet aussi avec nous, avec ses jardiniers de la nature. Tenez, Serge Bahuchet, on reste toujours dans le domaine des semences, et vous êtes parti à Cusco. Alors, faut imaginer, on est à 3400 mètres d'altitude, Pérou, je commence, Amérique du Sud, Pérou, Cusco, 3400 mètres d'altitude. Et là, vous rendez compte vraiment de l'importance, vous avez une belle vision de l'agrobiodiversité en traversant une foire agricole.
Oui, effectivement. J'étais à Cusco avec des jeunes collègues pour une conférence internationale d'ethnobiologie. Et puis ça tombait à peu près au moment où il y avait effectivement la foire agricole, donc on y est allé. Et puis... On a été fasciné par le. Il y avait plein de stands de tous les villages de la région, et chacun montrait ce qu'il faisait de mieux. Et donc il y avait des sacs pleins de pommes de terre, évidemment, puisque c'est quand même la région d'origine. Et puis des sacs pleins de maïs, et puis des sacs pleins de petits tubercules que aucun d'entre nous ne connaissions. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait au moins 5 ou 6 espèces d'autres que les pommes de terre qui étaient consommées. Et puis il y avait aussi d'autres graines, des amarantes et toutes sortes de petites graines que nous ne connaissions pas. Et puis, comme dans toutes les foires agricoles, il y avait le concours des animaux. Et les animaux, bah, c'était des lamas et des alpacas. Mmh. Et en particulier les alpacas, donc, qui étaient une espèce de petit de lama plus gracile. Mmh.
C'est un peu moins gros qu'une charolaise au salon d'agriculture, mais c'est ça.
C'est moins gros, oui. C'est mais c'est beaucoup plus joli sur le pelage. Et en fait, le concours portait sur la qualité de la laine. Et là, on a vu, ils avaient toutes sortes de couleurs et toutes sortes d'épaisseurs de poils, frisés, des poils raides, et puis donc le concours portait là-dessus. Et puis il y avait d'autres animaux. Il y avait aussi des vaches, évidemment, parce que ça existe là-bas depuis que les Espagnols les ont introduites. Puis maintenant, d'autres vaches. Il y a beaucoup de vaches de Brune des Alpes, par exemple, qui est très populaire dans cette région. Et bref. Et puis il y avait des cochons d'Inde. Et des cochons d'Inde de toutes les couleurs, des blancs, des mordorés et des noirs. Alors les cochons d'Inde noirs, ils servent pour la magie, et les autres, ils servent à manger. Oui. Et les pommes de terre, il y en avait de toutes sortes de formes. C'est pas nous, on en a 6-8 qui sont belles avec des qualités de chair différentes, mais là-bas, il y en a des dizaines et des dizaines. Certaines qui sont complètement tordues avec des sortes de verrues partout, puis d'autres qui ressemblent à des espèces de salsifis.
Si vous avez vu un camailleux incroyable en fait sous les yeux.
Quoi. Exactement, et ça, c'était extraordinaire. Ouais.
Et vous êtes dit d'ailleurs aussi que le jardin d'ornement est une représentation donc du monde, alors que le potager c'est un carrefour, parce que c'est le témoin des échanges entre jardiniers dont nous parlons, et maraîchers, agriculteurs, on va y revenir, et des relations sociales en fait d'une communauté.
Oui, alors dans notre jardin à nous, il est aussi le reflet de notre histoire, parce qu'il y a des plantes, ben, la tomate ou la pomme de terre qui viennent d'autres continents. Mais on s'est rendu compte en étudiant... des jardins dans les forêts équatoriales.
La tomate, elle vient pas loin quand même, c'était le même continent.
Non, la tomate, elle vient d'Amérique.
Oui, c'est ça.
Non, oui. Je pense à nos jardins à nous.
Ah, pardon, d'accord. Oui.
Non. Oui. Mais il y a d'autres histoires de diffusion sur l'Amérique, je pourrais en parler après. Mais on s'est rendu compte en travaillant, d'abord ça avait été démontré en Nouvelle-Calédonie, mais après on s'en est rendu compte aussi en Guyane et au Gabon. En fait, une agricultrice, parce que c'est les femmes qui plantent ces bananiers ou ces maniocs ou des ignames. En fait, elle en obtient les boutures par des échanges avec ses voisines, avec ses parents. Et quand on va visiter les parents dans un autre village, on ramène des boutures. Donc il y a une vraie recherche de choses diverses qui n'ont pas forcément une finalité culinaire particulière. Mais quand on fait un inventaire de plantes cultivées dans une parcelle plantée, on peut reconstituer l'histoire de cette personne et ses relations sociales.
Donc on reste dans le sujet, donc avec ces échanges, donc des clics de conscience. Et écoutez aussi donc Olivier Besancenot, c'est très court, mais ce qu'il disait donc à propos lui des pétitions.
Moi citoyen, je suis derrière mon ordinateur demain. Enfin, finalement, c'est pas mon clic, ouais.
Ouais, voilà, cliquer ça suffit pas. Voilà, pour répondre, cliquer ça suffit pas. Il faut pour un rapport de force, il faut que ceux qui sont en face se disent on a plus à perdre qu'à gagner si la mobilisation continue.
Des clics de conscience, donc sorti le 4 octobre avec vous, Jonathan et donc Alexandre. Alors là aussi, c'est-à-dire que vous avez inévitablement politique en face, lobby donc en face, et vous êtes un peu petit pousset quand même, donc vous avez pratiqué plutôt le judo, hein, vous n'êtes pas allé directement dans le combat de boxe, quoi, donc.
C'est vrai que nous, on a cherché très vite à trouver des alliés. En fait, on n'a pas cherché à entrer en opposition avec quiconque. On s'est dit que on voulait trouver des personnes qui étaient sensibles à ce sujet-là, et on a trouvé une personne exceptionnelle qui s'appelle Joël Labbé, qui, lorsqu'on lui a donné la pétition au bout d'un mois, nous a dit « Mais les mecs, il y a une grande consultation, un grand projet de loi sur la biodiversité qui va avoir lieu juste après la COP21 en janvier 2016. Votre revendication, ça va devenir un amendement qu'on va mettre dans le projet de loi. » Et en fait, très vite, on s'est dit qu'on pouvait, même si il n'y avait pas de législation autour de la pétition, on s'est dit que la pétition allait nous servir, en fait. Et toutes ces personnes qui nous avaient aidés allaient nous permettre d'écrire un amendement par la suite. Donc,
Mais alors, il faut savoir l'écrire. Et là, c'est pas simple. Parce que tout à l'heure, j'employais le terme de maraîcher. En fait, non, il fallait pas mettre le terme de maraîcher, il fallait mettre le terme d'agriculteur. Et là, vous vous êtes fait aider par une avocate donc aussi assez géniale et qui connaît donc ce sujet depuis longtemps.
Tout à fait. C'est Blanche, c'est l'avocate de
Magarino Serret.
Blanche Magarino Serret, exactement. Qui est l'avocate notamment de l'association Cocopelli, mais qui s'intéresse énormément au droit environnemental et qui travaille au niveau européen. C'est une vraie lobbyiste pour le bien commun, Blanche. Et on a tous besoin de personnes comme elle. Donc elle nous a effectivement aidés pour qu'on puisse comprendre à la fois la législation européenne, la législation française au niveau des semences, parce que c'est incompréhensible, c'est ultra complexe, et même en regardant sur Internet des informations, il y a une confusion qui règne, dans laquelle on baigne tous. Donc, si on voulait inscrire nos amendements et changer la loi, fallait la comprendre, la loi. Et c'est elle qui nous a vraiment expliqué tous les enjeux qu'il y avait, avec maintenant les leviers qu'on connaît, parce que l'Europe décide sur un certain nombre de choses, mais.
Parce que quand même, le droit européen, quand même, là-dessus, chapeaute, bien sûr, il chapeaute le droit français, quoi.
Tout à fait. Depuis le traité de Lisbonne, justement. Et sauf que l'Europe laisse aussi une marge de manœuvre aux pays. Voilà. Pour certains sujets. Dans le cadre des échanges de semences, elle n'a pas statué encore. Sur la vente de semences...
D'où le glyphosate aussi, on y reviendra.
Exactement. On est dans les mêmes enjeux. C'est tout à fait ça. Et donc, en ce qui concerne la vente des semences, c'est complètement uniformisé partout en Europe, même les règles du catalogue pour émettre une semence. Tandis que pour les échanges...
Donc ce fameux catalogue officiel où donc les semences, les graines doivent être inscrites.
Exactement. Ouais. Et qui a un catalogue, nous on en parle très bien dans le film avec Alex justement, qui nécessite des critères d'obtention qui rendent qui sont complètement absurdes, qui sont contre nature.
Exemple, Alexandre.
En Europe, c'est vrai qu'on a pour les végétaux un certificat d'obtention végétale. C'est une sorte de brevet mais appliqué aux végétaux. Et donc ce catalogue, j'en parlais aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'hybrides fins dedans.
On rappelle que l'hybride fin, ça va durer une année,
ouais.
Et qu'après donc on est obligé de ressemer, donc de repasser par les semenciers.
C'est-à-dire que même en bio, on s'est aperçu de ça.
Ah y en a plein.
C'est qu'il y a une vraie stérilisation du vivant.
Oui, vous avez du bio, vous avez aussi des hybrides fins, c'est même la majorité aujourd'hui.
C'est 95%.
Ouais. On s'est aperçu ça, et surtout, en fait, de nombreuses ONG en fait, travaillent sur ces questions, mais il y avait aussi la question de la brevetabilité du vivant en même temps sur le texte de la biodiversité, qui a été soutenu par, combattu par Réseau Semences Paysannes. Donc en fait, il faut comprendre que les menaces sont partout. Et la question de l'échange de graines entre agriculteurs, on l'a nous porté, parce que finalement c'était considéré comme presque un statu quo. Mais nous on s'est dit, c'est politiquement acceptable, on va le faire, et au moins on aura sauvé le minimum, et c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas.
Parce que ça c'est des enjeux qui sont pas récupérés par les réseaux de semenciers professionnels, même ceux qui vont dans le sens de l'intérêt général. C'est-à-dire que un réseau comme RSP, ils veulent permettre aux semenciers paysans d'avoir une rétribution pour leur travail. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de dire, on veut que les semences du domaine public soient échangées par tout le monde. Et en fait, nous, on a pu reprendre cet amendement-là parce que on n'a aucun intérêt économique derrière tout ça. Donc notre enjeu, c'est juste que la biodiversité puisse vivre et que nous, on puisse aussi, d'une certaine manière, en bénéficier. Donc, faut bien comprendre qu'à un moment donné, il manque dans cet échiquier de lobbying, puisque le lobby, c'est une pression qu'on exerce en fonction des intérêts qu'on a. Il manque un lobby citoyen. C'est-à-dire qu'on peut pas s'imaginer que les intérêts économiques de quelques puissance que ce soit, soit supprimée, puisque tant qu'il y a un intérêt, il y aura un groupe de pression derrière, ça c'est normal, mais par contre il faut aujourd'hui qu'il y ait un lobbying citoyen réellement qui existe, et d'ailleurs avec la sortie du film maintenant, on est en train de travailler à ce que ce lobby citoyen puisse exister pour le bien commun, et on milite, alors je sais pas si le mot est un peu biaisé de militer, mais on va faire en sorte que puisse exister un droit d'amendement citoyen, que les gens puissent écrire ça, des articles
c'est
de loi.
C'est votre prochain combat, c'est votre prochain clic. Hein, c'est ça.
Exactement, c'est le prochain clic. D'ailleurs, on invite les personnes à venir cliquer sur cette nouvelle pétition qu'on émet sur la plateforme Mes Opinions. Et la pétition s'appelle « Pour un droit d'amendement citoyen ».
Alors, donc, il y a eu, on le disait, hein, ce truc-là est passé avec, votre affaire est passée avec des gens vraiment de gauche, de droite, de centre. François Grosdidier, sénateur, maire de Voiry, qui était d'ailleurs aussi un copain de Jean-Marie Peul, connaît très bien ces sujets, est très au point sur la biodiversité. Et puis quand même, le sénateur de la Somme, qui était rapporteur de ce rapport, du rapport du projet de loi sur la reconquête de la biodiversité, qui est Jérôme Bignon.
Si, admettons qu'il y ait des amendements qui soient super intéressants, qui soient mis sur la plateforme, est-ce que vous envisageriez de les reprendre pour les déposer avant la date de clôture, le 14 janvier 2016 ?
Je ne dis jamais non, donc dès lors que je peux le faire, il n'y a pas de... Si je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui a été loupé, un apport qui a sa pertinence, qui est non pas encore une fois émotif, émotionnel et affectif, voilà... Pourquoi pas, il y a pas de, c'est pas, ça milite pas contre, ça milite plutôt pour.
Il faut que vous puissiez participer, puisque c'est votre souhait à l'élaboration de ce texte, qui a déjà une base solide gouvernementale plus première lecture à l'Assemblée, mais au Sénat, il y a la possibilité, à travers des amendements que déposeront mes collègues et à travers vos propositions dans la plateforme, de prendre en compte la participation des citoyens.
Voilà, c'est quand même, on vit dans une pyramide de normes qui sont donc tout à fait contraignantes, certaines sont nécessaires, hein, mais sont donc tout à fait contraignantes, et c'est ça qu'il fallait prendre, alors gentiment, là, avec le pied de biche, doucement, enfin, voilà, ça a été ça, mais c'est vrai que, alors, qu'est-ce que ça change maintenant, aujourd'hui, on va dire concrètement, pour les maraîchers, on s'en doute bien un petit peu, mais quand même, qu'est-ce que ça change pour eux?
Nous, on a conscience avec Alex que c'est une petite victoire, parce qu'il ne change pas le commerce des semences, notre amendement. L'amendement en question, il dit que les agriculteurs peuvent s'échanger librement tout type de semences. Et ce qui se passe avec la législation depuis toujours, c'est qu'un agriculteur a toujours pu vendre les fruits et légumes qu'il souhaitait dans un marché ou peu importe en vente directe. Et en fait, là où il y avait un gros problème, c'est qu'il devait justifier de la traçabilité de ses semences. Donc quand on allait le voir, donc la répression sanitaire ou la répression des fraudes allait le voir, ils allaient lui dire où t'as acheté tes semences. Et c'est ça le gros souci sur lequel on a travaillé, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, un agriculteur, quel qu'il soit, peut, lorsque la répression des fraudes va venir le voir, va dire, moi, ces semences-là, elles sont certes pas dans le catalogue officiel, mais par contre, c'est Françoise qui me les a données, ces semences. Et quand la répression des fraudes ira voir Françoise, Françoise dira, non, c'est Michel qui m'a donné ces semences-là. Mmh. En fait, on est en train de faire ce qui aurait dû exister depuis tout temps, c'est qu'il y ait de la solidarité. Et notre amendement, il ne vivra que s'il y a une vraie solidarité entre les agriculteurs.
Ça existait au départ, ça, en fait, Serge Belcher. On n'avait pas le choix. C'était l'entraide, la coopération, quoi. C'était ça.
L'entraide, la coopération, et puis le fait que chaque cultivateur produisait ses propres graines. Ouais. Donc ça a changé au moment où il y a des
sorties de la guerre.
Sorties de la guerre, oui, quand on a des professionnels de la production de graines. Et c'est là que se met en place tout ce commerce, ces sources uniques de ressources, en fait.
Alors, des gens passionnés, on en a partout. On en a aussi sur le répondeur. Tenez, 01 56 40 40 35, une petite rafale de messages.
Vous trouvez qu'on n'en fait pas assez pour la planète ? Nous aussi. Avec l'association Oui au Parc National, venez participer au pique-nique de soutien au projet de 11e Parc National, le premier parc français dédié à la forêt. Ce moment convivial sera l'occasion de montrer que les habitants du territoire souhaitent voir ce grand projet se concrétiser. Rendez-vous donc dimanche 1er octobre à 9h30 sur la place du village à Hénon-Auval, en Haute-Marne, 52 190. Visite d'une ferme, rencontre avec des agriculteurs. Vous pouvez aussi nous rejoindre directement pour le pique-nique, vers midi, à la cabane au secret, lieu indiqué depuis la place. L'avenir d'un territoire et sa préservation, c'est l'affaire de tous.
Eh bien, bonjour, bienvenue chez Sous. Eh bien, c'était pour faire une petite publicité pour notre petit village. Donc, c'est des plantations et gourmandises pour des arbustes, des fleurs, des bulbes, éventuellement des spécialités gastronomiques dans notre petit village pour le 30 septembre et le 1er octobre. Et ça se trouve à Mornay-Berry, donc ça se trouve entre Bourges et Nevers, voilà, en gros. C'est 1 € pour les 2 jours, hein. C'est pas très cher, donc c'est gratuit pour les enfants. Merci Denis, bonne journée à vous tous et aux auditeurs. Au revoir, bon courage à tous.
Alors, comme il nous le dit un peu vite, c'est à Mornay-Berry, donc on est à 40 km à l'est de Bourges. Tiens, j'ai envie d'aller à Juvisy. Tiens, j'ai envie d'aller dans le Gard.
Bonjour à toute l'équipe de CO2 Mon Amour et aux auditeurs de France Inter. Les collectifs Territoires en Lien et la Tribu de Draveil vous invitent à la 4e édition de la fête de la transition des territoires du Val d'Hier et Val de Seine. Cet éco-festival aura lieu le dimanche 1er octobre de 11h à 19h sur la base de loisirs du Port aux Cerises de Juvisy-Draveil. La fête de la transition s'inscrit dans le programme de la fête des possibles. Tout un tas d'initiatives concrètes pour s'alimenter autrement, se déplacer activement, produire localement, partager, s'épanouir et s'engager. C'est un événement familial, gratuit et ludique, alors venez nombreux.
Bonjour, je suis Chantal de l'association Penjafig à Vézénobre dans le Gard. Penjafig est une expression occitane qui signifie « ceux qui suspendent les figues ». Durant des siècles, en effet, l'économie de notre cité médiévale reposa sur le séchage des figues. Le 1er octobre, nous commémorons cette activité et nous invitons les producteurs transformateurs de figues de différentes régions. Nous proposons aussi plusieurs conférences, ateliers et tous les restaurateurs proposent des menus à base de figues. Alors, bienvenue à Jour de Figue, le dimanche 1er octobre à Vézénobre dans le Gard. Merci.
Très joli Vézénobre dans le Gard. Alternativa, hein, ce week-end aussi, donc avec la fête des possibles à Paris. Moi, je retrouverai avec un homme qui s'appelle Gilles Clément au domaine du Rayol. Ce sera demain après-midi. Oui, dans le Var. Oui, en prenant le train, pas l'avion. Donc voilà, je retrouve donc avec Gilles Clément. Et puis on va faire un reportage aussi sur vous écouterez plus tard sur les plantes, sur l'adaptation des plantes, parce que la sécheresse, elle est quand même là. Qu'est-ce qui vous anime tous les deux? Moi, ça m'intéresse bien quand même aussi profondément là. Jonathan Attias et Alexandre Lombroso.
Tu veux commencer?
Ouais, bah moi, c'est la vie qui m'attire et qui m'anime.
Ouais.
L'animus, quoi. Non, mais ça paraît logique à dire, mais c'est vrai. Et que c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on vit dans un monde hyper industriel, hyper formaté, hyper standardisé, et qu'on découvre la beauté de la biodiversité, bah voilà, on est animé, on se dit qu'il y a un truc qui cloche et qu'on a envie de changer les choses et qu'on va faire ce qu'on peut.
Et vous le disiez, vous étiez urbain, enfin vous l'êtes, parce que au départ c'était pas.
Ah moi je suis un vrai urbain, méditerranéen mais urbain.
Oui.
Et donc voilà,
oui.
Avec très peu de connaissances de comment on plante, comment on ressème, qu'est-ce qu'on récolte. Donc.
Et vous Alexandre, Jonathan pardon, Mathias.
Moi ce qui m'intéresse, alors tout ce qu'a dit Alex bien sûr, mais c'est de puisse reprendre confiance en notre propre pouvoir, nous les citoyens, parce qu'on ne nous a jamais appris qu'on pouvait être maître de notre destin, ni à l'école, ni dans les institutions, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui m'anime, c'est qu'on reprenne ce pouvoir sur notre destinée.
Et Serge Bahuchet, c'est aussi l'amour de la vie avec les jardiniers de la nature, vous verrez tout cela aux éditions donc Odile Jacob, grand merci à Alice Berger, Nicolas Delmas aujourd'hui, à la technique, à Camille Blanès qui a beaucoup travaillé en amont, et puis Xavier Pestugia qui réalise l'émission, Anne Gouzon donc qui nourrit les sites. La semaine prochaine, eh bien nous irons chez un homme qui s'appelle Nicolas Vanier qui va sortir un film, et là ça va être un spécial Sologne. Nous on va se retrouver dans le Loiret chez lui, avec lui aussi son amour de la nature. Rediffusion entre 5h et 6h hein, et puis podcast quand vous le souhaitez. Les petits bateaux, 19h54 après, non la Tulu, après les petits bateaux 19h54, je vous souhaite un excellent week-end.